Bonjour, bonjour, bienvenue sur Antenne Doc. Voici le temps de nous reconnecter un petit peu à la nature qui nous entoure et à ces beaux cadeaux qu'elle peut nous faire avec l'émission Le Temps des Fleurs. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une plante d'été que beaucoup de gens connaissent au moins du nom, car c'est une plante qui est connue dans la cuisine et surtout dans la cuisine italienne. C'est l'origan, cette petite plante aromatique si douce. Alors bien sûr, nous allons parler ici de l'origan commun, le sauvage, celui qu'on trouve sur nos bords de chemin. Il porte le nom latin de Origanum vulgare, qu'il ne faut évidemment pas confondre avec la marjolaine, qui s'appelle aussi l'origan des jardins. Son nom latin, c'est Origanum majorana, qui est cultivé en fait depuis l'Antiquité et qui est originaire d'Afrique du Nord et d'Asie. Bon, il faut avouer que notre origan sauvage est souvent appelé par erreur marjolaine, marjolaine sauvage, et ses autres noms sont aussi marjolaine bâtarde ou fausse marjolaine. Alors, il fait partie de la famille des Lamiacées, une grande famille qui contient beaucoup d'espèces aromatiques. Des origans, il en existe une quarantaine d'espèces dans le monde, mais en France, on ne peut en trouver que deux dans la nature, et l'autre, en fait, il est plutôt très rare, il est présent que dans la Drôme, et en plus, il s'est échappé des jardins. Ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément indigène pour la France. Alors, pour le reconnaître, on peut déjà commencer par regarder ses feuilles qui sont associées deux par deux, opposées le long de la tige. Elles sont ovales, velues, entières ou alors très légèrement dentées. Et surtout, elles sont très aromatiques quand on les froisse. Et avec cette odeur suave, on reconnaît bien l'origan de la cuisine. Donc en fait, si vous sentez une légère odeur de menthe ou alors pas d'odeur du tout, c'est que ce n'est probablement pas de l'origan. Ensuite, ces fleurs sont regroupées en haut des tiges et sont constituées, comme toutes les fleurs de Lamiacée, de deux lèvres, une supérieure et une inférieure, qui ici est divisée en trois lobes. Celles de l'origan sont roses, roses plus ou moins claires, à la différence de la marjolaine qui, elle, a des fleurs blanches à mauve clair. L'inflorescence donne pourtant un aspect assez violacé, à cause des bractées qui sont des sortes de petites feuilles, des folioles, qui entourent la base des fleurs, et qui sont d'abord vertes, puis qui finissent par rougir en vieillissant. Et une fois que l'origan est défleuri, ces bractées persistent, et on a vraiment un aspect violacé de l'inflorescence. Le mot origan est issu du grec ancien origanon, qui signifie « qui se plaît sur la montagne ». Alors c'est composé de oros, montagne, et de ganos, qui veut dire « beau, bel aspect, éclatant ». Donc en fait, on pourrait dire que l'origan, c'est la beauté des montagnes, qui se plaît à pousser en fait sur des sols plutôt rocailleux, plutôt calcaires, et surtout plutôt chauds et secs, et pauvres en matière organique. Mais on ne peut pas dire qu'il aime vraiment forcément le plein cagnard de nos coteaux. C'est plutôt une espèce de soleil un peu modéré, de mi-ombre. Donc on le trouve généralement pas trop loin d'arbres ou d'arbustes qui peuvent lui offrir un petit peu d'ombre dans la journée. Alors, ça peut arriver qu'on le trouve au milieu de prairies, mais ça sera des prairies qui sont un peu protégées des fortes chaleurs et surtout avec un sol suffisamment profond pour qu'il puisse avoir un petit peu de fraîcheur dans le sol. Alors, et l'avantage avec l'origan, c'est qu'on peut le trouver partout en France. Alors, il a tendance à s'installer un petit peu dans des endroits perturbé de temps en temps. Donc on va le trouver aussi fréquemment sur les talus de bord de route ou sur les bords de chemin qui sont un petit peu grattés des fois avec les engins qui girobroient les bords de route. Et donc quelquefois on le trouve dans les prairies, mais aussi ça peut arriver qu'on le trouve sur les versants de nos coteaux, mais ceux-ci ne doivent pas être trop secs et trop exposés au soleil comme on l'a dit. Bien, maintenant comme vous savez le reconnaître et que vous savez ou le retrouver, on est parti pour parler un petit peu de ses intérêts et on va commencer par ceux dans la cuisine. Alors c'est vrai que l'origan sauvage a davantage d'odeur qu'il n'a de goût et que l'origan qu'on préconise souvent dans les recettes, c'est généralement la marjolaine que vous pouvez trouver dans les magasins. Mais il faut quand même avouer que c'est tout de même sympa de cuisiner avec des plantes sauvages qu'on est allé récolter dans la nature. Donc, on le sait déjà, c'est une fine herbe aromatique qui est souvent utilisée dans les pizzas ou alors dans les pâtes avec de la sauce tomate ou encore dans le risotto. Mais on peut l'utiliser aussi pour aromatiser des poêlés de légumes, des œufs ou brouillés, des omelettes, du caviar d'aubergine, des soupes, des galettes, des tartes. Aussi mettre la fine herbe carrément dans la pâte à tarte mélangée avec la farine ou encore des salades, etc. Enfin, vous avez la possibilité d'imaginer toutes sortes de recettes. On peut utiliser ses fleurs et ses feuilles, qu'elles soient fraîches ou séchées. C'est l'avantage de l'origan, on peut le sécher et le garder toute l'année. Et bien sûr, quand même, on rappelle que comme toutes les plantes aromatiques, il est quand même préférable de l'ajouter à la fin de la cuisson pour lui permettre de diffuser toute son arôme et non pas d'être détruit avec la cuisson. En Sardaigne, ils font une sauce qui est composée d'huile d'olive, de citron, de persil et d'origan frais et sec qui s'appelle la salmoriglio. Alors, si vous avez de la chance et que vous trouvez l'origan en bonne quantité, vous pouvez aussi vous amuser à faire un pesto, soit pur, soit en le mélangeant avec d'autres plantes. Et là, vous verrez, c'est fait quand même un super petit pesto pour les apéros. Il est possible aussi de faire un beurre d'origan, donc en mélangeant le beurre avec l'origan séché, et ça va finalement pouvoir parfumer vos différents plats directement dans votre assiette. Alors, on a la possibilité aussi de s'amuser à faire des sirops originaux ou des glaces avec de l'origan. Et aussi, pourquoi pas, aromatiser de la bière ou encore faire une petite liqueur pour la digestion. Bref, si vous aimez son goût ou son odeur, finalement, il y a quand même pas mal de choses à inventer pour se faire plaisir avec l'origan. Et finalement, le temps que vous y réfléchissiez, on va faire une petite pause musicale. Mais c'est vrai que je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à trouver des morceaux assez sympas et corrects à vous faire écouter qui citent l'origan ou la marjolaine, car finalement il y a quand même pas mal de chansons de rap que je ne trouve pas forcément terribles à écouter et qui parlent de l'origan comme une drogue à fumer. Donc là, j'ai plutôt choisi de vous proposer une chanson d'un Suédois qui s'appelle Björn Rosenström, qui parle aussi de l'origan comme tel, comme une drogue à fumer, mais je le trouve quand même un petit peu moins agressif et un peu plus sympa à écouter. C'est parti.
Ibland går jag på stan och känner att jag inte har någonting att göra. Aj, aj, aj. Då går jag in i en butik och köper oregano. Oregano. Läskande oregano. Sen smaskar jag och snaskar jag och tuggar gott på min nya krydda. Aj, aj, aj. Ingen vet varför jag blir glad av oregano. Oregano. Läskande oregano. Och be mig inte bjuda ur min burk. Den har jag köpt utav en turk i saluhallen. Aj, aj, aj. Och han är min bästa vän, för han säljer oregano. Oregano. Läskande oregano. Och bredvid turken står en grek som kränger timjan. Tar upp nösk i ful, rent medioker timjan. Så jag skyndar iväg, jag flyr ifrån timjanmannen. Och ställer mig i kö hos min turk för att fylla spannen. För jag vill bara ha. Jag vill bara ha oregano. Oregano.
Vous êtes toujours sur Antenne Doc dans l'émission Le Temps des Fleurs, qui parle cette fois-ci d'une petite plante aromatique sauvage et courante dans le Lot, c'est l'origan. Et on vient d'écouter une chanson qui évoque le fait de fumer l'origan. Alors, je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'informations sur cette pratique et ses effets. Mais apparemment, si l'odeur de la fumée de l'origan est plutôt agréable à sentir, cela peut donner un peu mal à la tête, ce qui n'est pas très étonnant étant donné l'huile essentielle qu'il contient. Et en plus, ça ne semble pas vraiment modifier l'état général du fumeur. Bon, alors il est vrai qu'il a fait partie des plantes que nos anciens pouvaient fumer en les mélangeant au tabac, mais peut-être mieux vaut-il ne pas trop en abuser car il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience sur ses effets, néfastes ou pas d'ailleurs. Par contre, il y a bien d'autres façons d'utiliser cette plante pour les bienfaits qu'elle peut apporter à notre santé, car c'est une très bonne plante médicinale. Alors après avoir discuté un petit peu de cuisine, on va pouvoir commencer par parler de la digestion et que l'origan a la capacité de réduire les phénomènes de ballonnement qui peuvent arriver lors de la digestion, d'une digestion trop lente et difficile. En effet, il est riche en substances aromatiques qui font un petit nettoyage ou plutôt une sorte de régularisation des bactéries et des levures que l'on peut absorber avec la nourriture. Et ainsi, il va limiter les fermentations intestinales. D'ailleurs, en termes de régulation de la flore intestinale, il est apparemment intéressant pour les gens qui seraient atteints de la candidose intestinale. On peut le prendre donc en infusion ou sous forme de teinture mère, qui est une macération alcoolique. Et donc là, on va prendre que quelques gouttes dans un peu d'eau. Ou alors, on peut aussi fabriquer une petite liqueur digestive maison qui peut être, ma foi, tout à fait sympathique pour finir les repas et utiliser un petit peu comme un médicament. Mais on va essayer de pas trop en abuser. Alors, l'origan est aussi antispasmodique pour soulager les spasmes et les crampes digestives, mais aussi intéressant pour soulager les crampes dues aux règles douloureuses, qui peut être efficace s'il est associé aussi avec d'autres plantes qui vont décontracter et décongestionner le bas-ventre, comme par exemple l'achillée millefeuille, dont on a déjà parlé lors d'une autre émission. Alors pareil, on peut en faire des infusions ou alors l'appliquer localement, soit en compresse, soit faire des bains. Mais on peut faire aussi un macérat huileux appliqué en compresse avec une petite bouillotte bien chaude par-dessus pour soulager ses crampes menstruelles. On a aussi l'avantage d'utiliser l'origan pendant l'hiver parce que il va être intéressant avec ses propriétés antitussives et expectorantes. Alors il est antitussif en limitant les quintes de toux qui sont souvent épuisantes, notamment dans les cas de gorge très irritée ou encore en cas de coqueluche. Et intéressant pour accompagner les personnes âgées qui peuvent s'épuiser en toussant et en ayant des quintes de toux comme ça. Et ensuite il va être expectorant dans les cas de bronchite en libérant plus facilement l'encombrement des bronches. Il va être utile aussi pour soigner les angines. On va pouvoir faire une infusion qu'on va utiliser en gargarisme avec un petit peu de sel pour augmenter son efficacité. Il peut donc être finalement un bon compagnon soit pour soigner les maux d'hiver, soit pour préparer et passer un bon hiver en prenant une petite infusion dès qu'on se sent avec un petit coup de froid, un petit coup de fatigue, pour profiter de ses propriétés immunostimulantes. Il est d'ailleurs un tonique aromatique utile en traitement de fond pendant les périodes où l'on se sent un peu faible et fatigué. Si on parle un peu d'huile essentielle, alors l'huile essentielle que l'on trouve dans le commerce n'est pas l'huile essentielle de l'origan commun, mais plutôt d'un origan cultivé à l'étranger qui est l'Origanum compactum. Cette huile essentielle est intéressante parce que c'est un anti-infectieux réputé par voie interne, mais aussi en application externe contre l'acné ou les dermatites infectieuses, parce qu'il a des propriétés antifongiques et antibactériennes. Mais là, il faut faire attention parce que c'est une huile essentielle très irritante. Et donc en externe, il faut bien la mélanger avec une huile végétale pour la diluer et ne pas l'appliquer pure sur la peau. Et en usage interne, il va être préférable de la consommer sous forme de gélule ou alors sous un temps vraiment très limité, toujours dilué dans une huile ou dans du miel, et en plus limité parce qu'elle serait hépatotoxique sur la durée. Mais bon, ceci dit, notre origan sauvage a les mêmes propriétés, même si elles sont moins efficaces. Et si on ne peut pas utiliser son huile essentielle, on pourra toujours l'utiliser pour soulager nos problèmes de peau en faisant des cataplasmes de plantes fraîches ou une infusion de plantes ou alors encore sous forme de macérat pour soigner ces petits problèmes de peau. L'origan est aussi une bonne plante en application locale contre les douleurs musculaires et articulaires. Pour les douleurs musculaires, dans le passé, on coupait et on hachait une bonne poignée d'origan frais qu'on faisait légèrement chauffer et qu'on appliquait avec un tissu pour maintenir en place là où ça fait mal. Et par exemple, on peut l'utiliser pour sur les torticolis. Mais on peut, comme j'en l'ai dit tout à l'heure, aussi utiliser un macérat huileux qui est peut-être plus facile à utiliser à n'importe quel moment dans l'année. En tout cas, voilà, vous avez déjà une bonne liste qui montre que l'origan peut être un bon allié pour notre bonne santé, mais bien sûr en prenant des précautions d'usage, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'huile essentielle, ou en évitant d'en consommer en infusion tous les jours pour les personnes qui auraient le foie un peu fragile, voire même éviter aussi des infusions thérapeutiques à forte dose pour les femmes enceintes ou allaitantes et également pour les jeunes enfants. Alors, après avoir parlé de nombreux intérêts de cette plante dans la cuisine et dans la pharmacie, on peut citer d'autres usages encore, comme par exemple que l'origan peut servir à faire de la teinture végétale de couleur un peu vert clair, que l'on peut utiliser aussi bien en cuisine comme un espèce de colorant naturel ou alors pour teinter du textile. En cosmétique, il permet aussi de lutter contre la chute des cheveux et pourrait même être un répulsif contre les poux. D'ailleurs, à ce sujet, l'origan a la particularité d'éloigner diverses insectes comme des fourmis, des mouches, mais aussi apparemment des moustiques. Alors soit en ayant de l'origan en pot au niveau des fenêtres ou un peu dispersé dans la maison, soit en disposant des feuilles ou de l'huile essentielle sur, par exemple, les routes de fourmis. Il est même parfois utilisé comme insecticide en agriculture bio, en pulvérisant un mélange avec de l'huile essentielle ou une macération de plantes entières, et c'est ainsi qu'il est utilisé contre des coléoptères nuisibles dans des cultures ou dans certains vergers, et également contre des coléoptères ravageurs des stocks de denrées alimentaires, ce qui arrive assez fréquemment, par exemple, dans les pays en voie de développement ou les pays sous-développés. Alors, il est également présent dans le folklore, avec notamment une croyance qui est issue d'un conte populaire qui raconte que l'origan, en fait là c'est plutôt la marjolaine dont on parle, mais il permettrait d'éloigner les séducteurs importuns. Et il y a vraiment une croyance, une vieille croyance qui a probablement donné l'origine à ce conte qui dit qu'il permet de protéger contre les envoûtements et les philtres d'amour. Et pourtant, à contrario, à l'époque des Grecs et des Romains, cette plante était aussi très appréciée et était utilisée comme symbole de bonheur et d'amour en étant offerte en couronne aux jeunes mariés. Il y a aussi une superstition qui disait que une personne qui porte toujours sur elle un brin d'origan n'éprouvera jamais de malheur et se protégera de divers fléaux, comme par exemple la peste à l'époque. Il était d'ailleurs considéré et utilisé comme une plante magique qui protège du mal et qui permet d'avoir l'esprit clair. Alors, pourquoi pas, c'est l'occasion d'essayer maintenant que vous la connaissez un petit peu mieux. Bien, l'émission arrive à sa fin et nous avons fait finalement un bon tour de cette plante avec toutes ces infos précieuses qu'on avait oubliées pour la plupart. Et je ne doute pas que maintenant vous allez espérer le croiser au détour d'une balade ou tout près de chez vous pour pouvoir en profiter. Alors, le temps que vous vous prépariez pour votre balade et éventuellement aller faire une récolte, je vous propose d'écouter un bain des pistes qui est un joli poème chanté par Catherine Major, qui est une chanteuse québécoise. Ah oui, j'ai oublié de vous parler quand même d'une chose importante. Je pense que vous vous en doutez un peu, mais je préfère le rappeler. Il est quand même important de ne pas tout récolter dans un même secteur, une plante. Car il est quand même important que la plante, notamment là on parle de l'origan, puisse continuer à se reproduire. Et surtout, c'est sympa de pas oublier de partager les plantes avec d'autres bêtes que les humains. Car par exemple, l'origan est une plante qui est très mellifère et qui peut nourrir de nombreux insectes jusqu'en septembre. Et en plus, l'origan est une plante hôte de la jolie chenille d'un petit papillon qui est rare et protégé en France, c'est l'azuré du serpolet. Oui, alors il n'est pas forcément fidèle complètement, il est aussi sur le thym serpolé. Mais c'est un petit papillon qui se raréfie beaucoup parce que sa biologie est un petit peu particulière. Bah, allez, je vous raconte rapidement sa biologie. Le papillon, donc la femelle, va pondre ses œufs sur la plante et la chenille donc va se développer et s'enfoncer dans le bouton de la fleur. Elle va faire plusieurs mues jusqu'au moment où elle va tomber au sol et elle va attendre gentiment que des fourmis du genre précis Myrmica les embarquent jusqu'à leur fourmilière. Alors pourquoi elles font ça? Ben finalement parce que la chenille sécrète un miella qu'elles adorent et qui nourrit les fourmis. Et donc, pendant ce temps, ben, la chenille va pouvoir être protégée des parasites et des prédateurs dans la fourmilière pendant que les fourmis se délectent de ce miel-là. Mais en plus, cette chenille va aussi se nourrir des œufs et des couvains des fourmis pendant que finalement, ce doux miel-là tourne un peu la tête des fourmis. Et c'est pas fini. La chenille, elle va jusqu'à mimer, imiter le chant de la reine des fourmis pour bénéficier d'un traitement de faveur de la part des ouvrières. Et donc voilà, finalement la chenille elle a trouvé un bon stratagème pour passer l'hiver tranquillement dans une fourmilière protégée, s'y développer, faire sa métamorphose et s'envoler avant que ses hôtes ne découvrent le subterfuge. Et là on peut vraiment parler d'une symbiose. Parce que le stade où la chenille se retrouve dans une fourmilière, c'est indispensable à la survie de l'espèce de l'azuré du serpolet. Bon allez, maintenant je vous laisse vraiment et je vous souhaite une bonne balade et je vous dis à bientôt. C'était Caroline de l'association Primula Plandéum.
Il pleut de la vanille sur son cœur pomganel. De ses prunelles, des larmes de pacotille, dans les parfums d'amande, dans les flots de lavande, traîne au café de Chine, sa robe mousseline, ses noirs cheveux réglissent, et sa peau douce coriandre, dans les effluves d'anis, sente, flotte et glisse, de ses lèvres cerises, un baiser volatile, dans un souffle voyage, vers mille autres rivages. Un homme la désire. Un autre l'aventure, juste pour le délire d'un instant de luxure. La lune se pose, que la nuit se baigne de cacao café, de crème d'oranger, de rose et de laurier, qu'il neige des étoiles, parfum boréal, de flocons de verveine, de feuilles de marjolaine, la nuit dépose sur elle, son voile hydromel, son souffle chaud de